midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Émission spéciale sur Beurre FM, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, Steve est avec nous, bonjour Steve.
Bonjour Philippe.
Entraîneur bonjour, de l'équipe de France de lecture rapide, notre invité ce matin c'est Jacques Attali, bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur.
Et j'ai repris la présentation de votre site, hein. Vous êtes polytechnicien, énarque et ancien conseiller spécial du président de la République François Mitterrand. Pendant 10 ans, vous êtes fondateur de 4 institutions internationales, Action contre la faim, Eureka, Baird et Positive Planet, fondation que vous présidez toujours aujourd'hui. Mais si vous êtes là dans un premier temps, c'est pour nous parler de l'année des dupes, Alger 1943 aux éditions Fayard. Et on apprend dans votre livre que vous êtes né un 1er novembre 1943, bon anniversaire.
Merci.
On apprend également que votre père ne savait pas qu'il allait avoir des jumeaux, c'est l'époque où ça pouvait être encore des surprises.
Oui, c'est une surprise qui a été particulière pour lui, puisqu'il était sur le bateau qui emmenait les soldats français, puisqu'il était français depuis quelques jours, comme on aura l'occasion de le dire, vers les combats en Italie, et qu'il a dû descendre parce qu'il avait 2 enfants au lieu d'un, et qu'à 2 enfants, on ne partait plus.
Bien. Et donc, sur l'état civil, donc, qu'est-ce qui est inscrit, qu'est-ce qu'on a enregistré à nationalité? Est-ce que vous êtes juif indigène, français?
Alors, dans
ou
l'état
français temporaire?
Alors, dans l'état civil, on n'enregistrait pas la nationalité à l'époque. Donc, même pendant la période de 40 à 43, où les juifs étaient indigènes, comme les musulmans, il n'y avait pas d'indication de nationalité. Donc, ça ne changeait rien. Par contre, évidemment, ça a changé beaucoup pour tous ceux qui étaient étudiants, qui étaient avocats, qui étaient médecins, qui étaient commerçants, qui retrouvaient une citoyenneté. Ils avaient la nationalité, mais ils retrouvaient une citoyenneté. Et je n'avais la citoyenneté française que depuis 3 jours, en fait. Mm-hmm. Puisqu'elle a été rétablie, à mon avis, d'une façon illégale, pour les Juifs, que 3 jours avant le 1er novembre 1943.
Et on verra comment. En quoi le 1er novembre est-il une date importante pour vous, Jacques Attali?
Évidemment, c'est une importance d'abord parce que c'est ma date de naissance, mais aussi parce que, comme chacun sait, c'est aussi le premier jour de la Révolution algérienne. Enfin, il y a eu beaucoup de premiers jours, puisque la Révolution algérienne a commencé bien avant, mais c'est le premier jour reconnu dans l'histoire officielle de la Révolution algérienne. Et c'est un jour dont je me souviens parfaitement, puisque c'est un jour où mon père nous a dit « on ne pourra pas rester, on se prépare à partir ».
L'anniversaire dont on va parler aujourd'hui est un anniversaire qui est beaucoup moins commémoré, puisque c'est le 8 novembre 1942.
C'est un anniversaire que personne ne commémore, et pourtant ça devrait être commémoré, puisque c'est le premier débarquement américain en France.
Ça s'appelle l'opération Torche.
Torche au nom de la liberté. Et personne n'en parle jamais, pour des raisons incroyables, puisque c'est un débarquement pendant lequel les forces françaises ont tiré sur les Américains, en faisant des morts dans les deux camps. C'est un anniversaire où c'est un débarquement pendant lequel des résistants ont aidé les Américains, et au lendemain du débarquement américain, anglo-américain, ces résistants ont été arrêtés, certains même ont été tués, envoyés dans des camps, et c'est un débarquement à la suite duquel les Américains ont mis au pouvoir les gens de Vichy. Donc c'est un débarquement honteux pour tout le monde. C'est pour ça que l'histoire l'a soigneusement enterré.
Et arrêtez-moi si je me trompe, mais sans ce débarquement, vous ne seriez pas là.
Ou sans ce débarquement, je ne serais sans doute pas là, parce que ma mère avait prévu de partir en métropole, ce qui était un acte fou, la semaine précédente, pour aller rejoindre sa sœur qui était avec son mari à Marseille, pour essayer de la faire revenir en Algérie, sa sœur qui était mariée à un dentiste breton, juif et breton. Les bateaux, l'arrivée des bateaux américain a coupé les lignes, elle n'a pas pu y aller, ce qui fait que quelques semaines plus tard, elle a rencontré mon père, et elle avait raison d'aller vouloir chercher sa sœur, puisque son mari, ce dentiste dont je parlais, a été arrêté et n'est jamais revenu d'Auschwitz. Ouais. Mais en effet, je ne serais pas là si les Américains n'avaient pas débarqué.
Alors, ce livre est un prétexte pour vous pour replonger sur l'histoire de la présence juive en Algérie.
Et de l'Algérie en général.
Et,
oui.
des différentes confessions d'ailleurs. Hein. Mm. Et c'est votre histoire familiale que vous racontez pour la première fois.
Oui, enfin, c'est le livre n'est pas centré sur mon histoire familiale. Non. J'en parle au passage. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une occasion de raconter l'histoire de l'Algérie, l'histoire des différentes communautés, comment elles se sont conduites les unes avec les autres. Et ce que ça nous dit d'aujourd'hui, puisque une des grandes questions qui est sous-jacente dans tout ça, et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que tout ça s'explique que par une question, c'est quelle est la place de l'islam dans la France. Mmh. C'est ça qui est sous-jacent à toute cette question. Mais c'est vrai que c'est une façon aussi de raconter mon histoire, de raconter que ce que peu de gens savent, c'est qu'il y avait des juifs en Algérie bien avant l'islam, qu'il y avait des juifs en Algérie bien avant la chrétienté, puisqu'il y a des juifs puis des chrétiens avant que l'islam n'apparaisse, qu'avec l'islam, les relations sont correctes entre le judaïsme et l'islam, avec certaines situations de dhimmi qu'on a connues dans d'autres pays musulmans, et que quand les Français arrivent en 1830, tout change, puisque...
Il y a combien de juifs quand ils arrivent en 1830?
À peu près 30 000, 35 000, c'est l'ordre de grandeur, c'est pas des sommes, des nombres considérables qui vont monter jusqu'à l'indépendance de l'Algérie à 130, 140 000.
Les Juifs arrivent en Afrique du Nord 8 siècles avant Jésus-Christ.
8 siècles avant notre ère.
Voilà,
c'est 8 siècles avant notre ère, c'est-à-dire avant même la destruction du premier temple, puis avec la destruction du premier temple au 5e siècle, puis après avec la destruction du deuxième temple, il y a des vagues. Ils vont ensuite un peu plus loin au Maroc, on a des traces au Maroc au 2e-3e siècle.
À Volubilis, pour Volubilis. Ceux qui vont encore y aller.
Voilà,
hein,
voilà,
profiter d'aller à Fès pour aller à Volubilis.
Qui est juste à côté. Ouais. Il y a des traces juives aussi au 2e siècle en Algérie, donc avant Volubilis. Et puis il y a des histoires de mélange, puisque des juifs convertissent des locaux, qui ne sont pas évidemment encore musulmans, des locaux convertissent des juifs, il y a des batailles innombrables où les peuples se mélangent, évidemment.
Bon, il y a cette question de la Kaïna.
Je pense que les historiens sont maintenant d'accord pour dire qu'elle n'était pas juive, mais enfin c'est une belle histoire que de penser qu'elle pouvait l'être, c'est-à-dire cette grande rebelle qui s'est opposée aux conquérants.
Bien. J'ai appris quelque chose dans votre livre, c'est finalement d'où vient le mot séfarade.
Il y a beaucoup de sources au mot séfarade, beaucoup de sources, mais il est vraisemblable que ça vient d'Espagne, que ça désigne ces juifs qui venaient d'Espagne. Certains disent que ça désigne les juifs français, mais enfin c'est vraisemblablement d'Espagne que ça vient.
Bon, vous déconstruisez également l'histoire de l'arrivée en France, et finalement c'est une question de blé qui va déclencher... officiellement, et d'une dette qui n'a pas été payée, du blé qu'on avait acheté à des négociants juifs.
Alors, il y a, comme les juifs sont présents un peu partout dans cette région, à partir du moment où ils ont été chassés d'Espagne en 1492, ils sont présents un peu partout autour de la Méditerranée, en particulier dans les états du pape, et en particulier à Livourne. Et là, ils commercent avec les juifs d'Algérie, et il y a en particulier beaucoup de blé en Algérie, donc ils achètent du blé qui revend en Europe, et en particulier à la France. La France, qui, comme chacun sait, avant, à la fin de l'Ancien Régime, a été confrontée à une grave crise de manque de blé, donc achète du blé. Et la Révolution française continue à acheter du blé par ses intermédiaires juifs, les achète, puis il y a des impôts qui sont dus au dé d'Alger, qui est encore dans l'Empire ottoman, mais l'Empire ottoman a un peu oublié l'Algérie, qui est à peu près, non pas indépendante, mais autonome.